petit peu, c'est du mécénat.
Le patron d'EDF n'a pas le droit de dire « mais je finance Nicolas Hulot, laissez-moi tranquille
». Enfin, il ne le dit pas comme ça. Ils ne peuvent pas utiliser la bobine de Nicolas Hulot pour faire de la pub, pour vendre, voilà. Je crois que c'est assez clair. Mais quelque part, on pourrait me reprocher, enfin, je ne sais pas, ça me paraît normal qu'on aille chercher de l'argent là, que ça soit à ces groupes-là, de nous permettre d'agir. Si j'allais chercher de l'argent prioritairement chez les particuliers, on me dirait...
Eux, ils le font avec le nucléaire.
Thomas, c'est bon maintenant.
Il y a des faits, les faits tenaces et impossibles à enlever comme le petit caillou dans la chaussure. Nicolas Hulot, par exemple, c'est vraiment l'irrésistible ascension du jeune et sympathique animateur de télévision.
Sophie Dubry.
Dans les années 90, après... avoir créé une émission de télévision sponsorisée par Ron Poulenc, au générique bien connu et aux séquences émotions sous scaphandrier, va créer une fondation pour dédier sa cause à quelque chose. Et à partir de là, certaines multinationales, et en premier lieu TF1, vont se dire que ce sympathique garçon a derrière lui tout un potentiel pour mettre en avant la cause de l'écologie sans mettre en danger les multinationales. Donc ce sympathique garçon va fonder une structure, une fondation Nicolas Hulot, qui va embaucher des gens, qui va faire des projets avec les écoles et qui va alerter les citoyens sur l'écologie et sur le risque de la planète. Et tous ces gens-là vont laisser cette personne-là monter, vont lui donner des capitaux pour qu'il fasse quelque chose et pour qu'il prenne de l'espace dans l'espace public, pour qu'on parle de lui, afin qu'on ne parle pas du reste. Il faut bien voir que plus on parle de Nicolas Hulot, moins on parle d'autre chose. C'est normal qu'on parle d'écologie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne parle pas, par exemple, de la crise sociale absolument terrifiante dans laquelle on est actuellement. Mais on promet en permanence dire « Ah oui, grâce à Nicolas Hulot, on parle d'écologie. » Mais enfin, vu l'état de la planète, c'est normal qu'on parle d'écologie. Il faut arrêter au bout d'un moment. Mais alors lui, par contre, la fondation Nicolas Hulot, ça va devenir quelque chose d'important. Il va avoir plein de sponsors autour de lui. Et naturellement, lui, il ne va jamais se sentir... brimé dans sa liberté. Parce que s'il est arrivé jusque-là, c'est que sa liberté n'a jamais mis en danger ses multinationales. C'est comme si, dans la mafia, on lui a fait une proposition qu'il ne peut plus refuser. Au niveau où il est monté, il y est monté parce que sa liberté ne remettra jamais en question l'intérêt des capitalistes. Par contre, si demain il dit tout simplement, par exemple, je ne prends plus l'avion, je ne prends plus de voiture, je roule à vélo, et bien vous êtes peut-être sûr que TF1 et Bouygues disparaissent du site internet. Mais c'est rien du tout, c'est même pas du tout très intéressant finalement. Mais ça ne fera pas. Et alors que c'est pas compliqué. Pourquoi, par exemple, Nicolas Hulot dit pas ben, je ne prendrai plus l'avion. Non, parce que c'est un cas psychologique quand même qui me laisse pantoise. Nicolas Hulot, comment fait-il ? Parce qu'il y a, ils disent oui, il y a des compromis, on en fait tous des compromis, comme s'il se comparait lui au gars qui, par exemple, prend sa voiture tous les matins pour aller travailler, parce qu'il mettrait deux fois plus de temps en transport en commun. On fait tous des compromis, on est tous un peu gênés aux entournures, parce qu'on sait bien qu'on achète des choses qui sont pas écolo, parce qu'on fait pas les choses en cohérence avec nos idées.
Enfin, il y a des degrés.
Mais voilà, il y a des degrés. Il y a des degrés. Quand on a trois maisons, quand on travaille pour TF1 qui prépare le cerveau à acheter du Coca-Cola et quand on est payé 30 000 euros par mois, on ne peut pas dire que ses propres compromis sont à égalité avec la personne qui a un peu du mal quand il fait son marché à ne pas acheter que les choses bio. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Et donc à partir de là, on s'est dit, mais Nicolas Hulot, comment fait-il psychologiquement pour tenir ? Ben, je pense que quand on est payé 30 000 euros, on tient psychologiquement plus longtemps que, que les autres.
Et à propos d'environnement, comme promis notre invité maintenant, Nicolas Hulot, qui veut mettre l'environnement justement au cœur de la campagne. Vous publiez un livre, Plateforme pour un pacte écologique, où vous soumettez 10 objectifs et 5 propositions à tous les candidats.
France 2.
Et vous envisagez toujours d'être vous-même candidat. D'abord le contenu et le lancement de ce livre. Vous étiez très entouré ce matin.
7 novembre 2006.
La droite le courtise, une partie de la gauche le réclame. Mais pour mieux se faire entendre, le médiatique Nicolas Hulot s'est d'abord s'entouré. Julien Clerc, Florent Pagny, Luc Besson, Pascal Obispo. Le message est simple, Nicolas Hulot briguera l'Elysée s'il n'est pas écouté.
J'ai entendu Ségolène Royal dire hier que ma candidature n'était pas utile. Eh bien je prends acte de ça. Elle me semble inutile. À eux, les candidats, de la rendre inutile.
66% des Français considèrent qu'il est le meilleur candidat écolo. Nicolas Hulot a envoyé son projet à tous les candidats déclarés pour la présidentielle. Si ces derniers le refusent, l'animateur mettra sa menace à exécution en se présentant devant les électeurs.
Il y a quelque chose qui est très révélateur dans sa démarche. C'est le comité de soutien de son pacte écologique. Il y a une trentaine de personnes, et dans ces 30 personnes...
On peut expliquer ce que c'est que son pacte écologique ?
Son pacte écologique, c'est le pacte qu'ont signé tous